Dites donc. En fait, une petite question, parce que ça fait deux fois qu'on parle de cette histoire d'épandage, de réduction du périmètre
D'épandage.
d'épandage, et que systématiquement, ça fait deux fois que juste après, nous parlons de cette histoire de particules fines et de facilitateurs de
Transmission du
transmission du
virus.
virus, quoi. Et du coup, je me demandais un peu ce que c'était le lien, puisque on l'associe.
Eh ben, c'est une très bonne question, Jamy.
Ah,
Nous allons vous expliquer la réponse. Oui, en fait, ouais, j'ai pas expliqué le lien. En fait, dans cet article, ils font le lien parce que les épandages sont, d'après une asso qui mesure la qualité de l'air, responsables de pics de pollution printaniers durant les mois de mars à mai. Et en fait, c'est expliqué dans le sens où les épandages favorisent la formation de nitrate d'ammonium par la combinaison entre l'ammoniac qui est contenu dans les engrais ou le lisier et l'oxyde d'azote qui est dégagé dans l'air par les véhicules, les engins agricoles et l'activité industrielle. Du coup, voilà, du coup, en fait, l'épandage plus la pollution normale, enfin normale, la pollution industrielle et la circulation des voitures et tout, provoque ce nitrate d'ammonium, la formation de nitrate d'ammonium, qui est du coup une des particules qui est suivie dans les mesures de qualité de l'air, tout ça, quoi. Une des petites particules fines. Et alors, le procédé peut même se former, on va dire, tout seul. En cas de grosse chaleur, un sol surfertilisé peut également produire lui-même de l'oxyde d'azote qui facilite la formation de nitrate d'ammonium. Donc il n'y a même pas besoin de gaz d'échappement ou de.
Génial.
Voilà. C'est l'autofabrication de nitrate d'ammonium. Et qui se dissémine dans l'air par la suite et qui peut, au dire de cet article, véhiculer le virus.
Ok.
Transporter, voilà.
Ok. Merci, Jamie.
Voilà. Du coup, on n'arrête pas le
Merci.
progrès, même en cas de pandémie, quoi. Vraiment, le progrès, ne s'arrête pas. On continue. Coûte que coûte. Ah oui, bah du coup, vu qu'on a le micro, on va en profiter pour répondre un peu à Légumane et l'allocution bidon qu'il avait prévue. Il l'avait prévu, elle s'est réalisée. Et ça a inspiré l'écriture et donc la lecture d'un texte que voici. Un mois ferme. Ça sonne comme un coup de matraque. Le coup de marteau du juge qui prononce la sentence. Pourquoi? Pourquoi acceptons-nous cette sentence massive? Pour leur virus? Pour la santé publique? Fais-moi pas rire. Ils n'ont jamais interdit le tabac qui tue tant de personnes. D'ailleurs, même en période de confinement, les bureaux de tabac restent ouverts. Faut dire que ça leur rapporte de la thune. Fais-moi pas rire, ils n'ont jamais interdit la bagnole qui tue tant de personnes. D'ailleurs, même en période de confinement, tu la prendras quand même, ta voiture, pour aller au travail. Tiens, le travail, ils l'ont jamais interdit non plus. Et pourtant, le travail tue, mutile, aliène et détruit nos corps et nos esprits. Ils ont même assoupli le code du travail. Fais-moi pas rire, elle est où la santé? La santé, c'est pas le nom d'une prison, ça? Sauver des vies et être tous solidaires. C'est ça qu'on fait quand on fabrique des pesticides? Quand on construit des prisons et des centrales nucléaires? Fais-moi pas rire. Au moment où tout le monde était dans la rue, loi travail, gilets jaunes, retraite, lycée, on a voulu tester comment les gens rentrent bien chez eux. Alors évidemment, on se dit qu'on s'organisera. On organisera l'après, mais pas comme Macron, hein. On va pas remettre l'économie debout. Non, parce qu'on n'oubliera pas. Mais le hashtag on n'a pas oublié, il est où? Parce que des crasses, il y en a eu, non? Aujourd'hui, c'est les soignantes et les caissières, mais hier, et encore avant. Parce que dire on n'oubliera pas, est-ce que c'est pas assumer cette parenthèse, cette trêve? Y a-t-il une trêve pour les prisonnières des tôles et ceux et celles des CRA? Y a-t-il une trêve pour les ZAD expulsés? Y a-t-il une trêve pour les plus précaires, confinés, dans des domiciles pas sûrs, avec des moyens de débrouille de la rue devenus inexistants, Y a-t-il une trêve des brutalités policières? Y a-t-il une trêve dans l'industrie chimique? Y a-t-il une trêve pour la 5G? Y a-t-il une trêve pour l'épandage agricole? Non, on n'a pas oublié les mesures de confinement et de couvre-feu pendant la contre-insurrection en Algérie. Si nous sommes en guerre maintenant, on n'a pas oublié leur sale guerre, de celle qui a anéanti les mouvements ouvriers, socialistes, anarchistes du début du XXe, à celle qui a propulsé l'industrie de la chimie et de l'atome au devant de la scène économique. On n'a pas oublié la colonisation de nos esprits par leur merde télévisuelle. On n'a pas oublié la société du béton et de la consommation. On n'a pas oublié l'instrumentalisation de quelques assassinats pour lâcher la bride à la flicaille et au RG. On n'a pas oublié Sharon, la vidéosurveillance, les LBD. On n'a pas oublié les sites Seveso, les scandales sanitaires, la pollution industrielle. On n'a pas oublié les frontières militarisées, la traque des sans-papiers. On n'a pas oublié les logements vides et les morts de la rue. On n'a pas oublié. On n'a pas oublié l'arnaque des élections, la balnave des sondages et des pétitions. On a juste oublié de faire la révolution.
Bon, on a compris. Alors, est-on vraiment parti pour un mois de plus? Qu'est-ce qui nous bloque au juste pour dire stop? Ça suffit, on arrête d'être des pions de ce jeu obscène. On arrête de se terrer chez nous, de remplir des mots d'excuses pour les flics, d'exécuter les ordres des patrons, de payer le loyer et les factures. On arrête tout et on réfléchit, comme dans l'an 01, ce film qui, par les temps qui courent, est redevenu culte. Qu'est-ce qui nous bloque? La pression de la nécessité, soit. Mais pourquoi ne s'organiserait-on pas pour partager, pour redistribuer entre nous, pour créer des caisses de soutien en attendant de réapprendre à produire ce qu'il nous faut pour vivre, voire de nous libérer de l'argent? Ça avait bien déjà été tenté dans des contextes pires que le nôtre, comme par exemple dans les campagnes d'Aragon en 1936. Il y a aussi la peur des flics. Là, c'est plus délicat. En Aragon, face à l'avancée du fascisme, il était question de faire la révolution autogestionnaire et la guerre, les deux à la fois. C'est sûr que dans notre contexte, ça demanderait de la logistique et quelques savoir-faire. Mais pour commencer, pourquoi ne nous dit-on pas tout simplement que l'irrespect massif des injonctions de l'État ne peut que déborder ces dispositifs, dépassant rapidement le pouvoir qu'ont les forces de l'ordre de faire régner ce dernier? Il y a la peur de la maladie, bien sûr. Mais cette peur ne devrait-elle pas nous pousser à arrêter d'aller au travail? Ou encore, face à l'incapacité manifeste de l'État à juguler cette crise sanitaire, pourquoi la peur de la maladie ne nous invite-t-elle pas à chercher plutôt des manières autonomes de prendre soin de nous? Ah oui, il y a la peur du jugement. Celle-ci, elle est tenace. Mais le temps passe. On est très certainement de plus en plus nombreuses à reconnaître l'hypocrisie flagrante des mesures prises par l'État, à avoir réfléchi aux mécanismes ayant rendu possible la propagation du virus, dont l'apparition même n'a rien à voir avec les amatrices de l'école buissonnière. Et si ça ne nous suffit pas, il reste toujours possible de nous déconfiner masqués, puisque la dissimulation du visage passe aujourd'hui pour un acte socialement responsable. En général, pour la peur de l'avenir, c'est peut-être plus si difficile que ça de constater que nous n'avons pas d'avenir. Et de nous dire que si on veut faire quelque chose pour le présent, on n'a peut-être pas tellement de temps à perdre. Mais il y a aussi, dans ce qui nous bloque, l'efficacité du dressage disciplinaire et l'hétéronomie, cette habitude bien orchestrée d'attendre des solutions d'autres que de soi-même. Le poids de l'addiction généralisée aux substituts numériques aussi. Et probablement, surtout, le fait qu'il n'y a plus tellement de vie d'avant à retrouver, ni de contestation massive à laquelle prendre part, quand bien même on multiplie partout des effets d'annonce et des appels. Là, pour le coup, il y a des choses qui nous bloquent pour de bon. Puisque partout n'est pas partout, mais uniquement sur Internet, dans l'espace numérique, le seul espace soi-disant commun dont l'occupation ne dérange pas le pouvoir. Qu'y a-t-il de plus inoffensif que des tweets de menaces ou des photos des gens en colère postées sur Facebook? Plus encore qu'avant le confinement, l'action s'arrête à sa représentation et ne cherche pas de prise sur le réel. Mais stop. Pour être honnête, dans toute prise de parole qui manipule le pronom « nous », il faut peut-être commencer par nous demander de quel « nous » on parle. Ah oui, au singulier, ce qui me bloque, moi, c'est peut-être justement le sentiment qu'il n'y a pas de nous, tout en sachant que je ressentirai toujours de l'inconfort de simplement vivre ma vie, toute belle et active qu'elle puisse être, dans ce monde de merde. Impasse, invitation à redescendre sur Terre. Je terminerai par une citation d'une personne qui n'a pas vécu non plus dans le monde des bisounours. Le temps de sa vie, c'était deux guerres mondiales, camps de concentration, Nagasaki et Hiroshima. Voilà ce qu'il disait. Le courage, je ne sais rien faire du courage. Il est à peine nécessaire à mon action. La consolation, je n'en ai pas encore eu besoin. L'espoir, je ne peux vous répondre qu'une chose, par principe, qu'on n'est pas. Mon principe est, s'il existe la moindre chance, aussi infime soit-elle, de pouvoir contribuer à quelque chose en intervenant dans cette situation épouvantable dans laquelle nous sommes mis, alors il faut le faire. Et c'est signé de Günther Anders.
Moi, juste en lisant la deuxième, en écoutant la deuxième partie, ça m'a fait penser au. Apparemment, Macron, il aurait dit "Nous retrouverons les jours heureux." Et ça me fait penser à ce que tu disais sur il n'y aura pas de retour à la vie d'avant. Et en fait, même la vie d'avant. Non, c'est comment tu le disais ?
Qu'il n'y a pas. Oui, c'est ça. Il n'y a pas tellement de vie d'avant à
retrouver. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, par contre, dans la comment c'est construit, en fait, c'est en fait avant tout était parfait. Et du coup, on va retourner là-bas, quoi. Enfin, moi, il y a plein d'autres
évidemment,
trucs.
Évidemment, c'était loin d'être parfait avant non plus.
Mais voilà, c'est ça.
Mais ouais.
On s'envoie de la zik.
Allez.
Ah oui, ok.
Il n'y a pas de zik de 6 minutes.
En fait, on va écouter un tout petit texte de Franck Lepage à la suite de notre petit jingle.
Con.
Texte.
Con.
Finement.
Con.
Troll.
Con.
Travention.
Au con.
Con.
Clusion.
Contestons les amendes.
Constituons des caisses de soutien.
Une politique de confinement assortie d'une répression que je trouve moi, personnellement, quasiment obscène. Infliger des amendes qui vont jusqu'à 3 500 € à des gens qui gagnent, qui sont peut-être au RSA, et qui n'en peuvent plus, qui sont en train de devenir dingues dans le confinement et qui vont essayer de prendre l'air, d'accord ? Une telle violence, une telle férocité, jusqu'à des peines de prison ferme, etc. Alors que dans le même temps, on oblige d'aller au travail. Que les photos du métro parisien Gare du Nord à 6h du matin montrent des quais bondés, montrent des gens à touche-touche, d'accord ? Je veux dire, qu'est-ce qu'il raconte ce gouvernement ? Je veux dire, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il oblige les gens à aller travailler à Paris, d'accord ? 14 millions d'habitants dans un métro bondé, mais il fait surveiller les plages du Finistère par des hélicoptères. Attendez, excusez-moi, mais il a marqué du con sur mon front, enfin, je veux dire. C'est quoi le truc ? Je veux dire, à quel moment, jusqu'à combien de temps on va se foutre de notre gueule avec ce truc-là ? Je veux dire, soit il y a un problème de confinement et on confine, soit on peut envoyer tout le monde bosser dans le métro et il faut arrêter d'emmerder le monde parce qu'ils vont prendre l'air sur une plage. Donc ce qui me met la puce à l'oreille, je le disais tout à l'heure, c'est la violence de cette répression, la férocité de cette répression sur des histoires de promenade. Ça ne va pas. Le coup de l'hélicoptère, je le trouve extrêmement symptomatique. Enfin, je veux dire, c'est là encore, vous avez un test en grandeur nature qui est un test de l'obéissance de la police. Est-ce que la police va, les 160 000 personnes mobilisées, est-ce qu'ils vont accepter cette politique de répression ? C'est un test. Est-ce qu'on va trouver un gendarme avec suffisamment de neurones dans la tête pour conduire un hélicoptère au-dessus d'une plage pour traquer une petite vieille qui va respirer ? Oui, manifestement, on le trouve. Donc il y a un vrai test en grandeur nature de contrôle d'une population, avec une répression épouvantable, mais qui s'adresse sur du plaisir, de la détente, d'accord ? Mais pas le travail. Le travail, il faut aller bosser. Par contre, se détendre, ça, c'est pas bien. Ça, c'est... Là, vous avez une moralisation du problème. Enfin, c'est insensé.
Nous sommes maîtres de la terre. Nous nous croyons des presque dieux, et pan, le nez dans la poussière, qu'est-ce que nous sommes, des pouilleux. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, des cris au fou, au fou. Nous nageons tous dans la bêtise et l'on invente des drapeaux. On met des couleurs aux chemises, sous la chemise, il y a la peau. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent, tournent sur nous et crient au fou, au fou. Écoutez le monde en folie, vive la mort, vive la faim, pas un ne crie, vive la vie, nous sommes tous des assassins. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent, tournent sur nous et crient au fou, au fou. C'est toute la terre qui gronde, bonne saison pour les volcans. On va faire sauter le monde, cramponnez-vous, tout fou le camp. Et là-haut, les corbeaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent comme des fous et crient à nous, à nous. La vie pourrait être si belle si l'on voulait vivre d'abord. Pourquoi se creuser la cervelle quand il y a du bon soleil dehors?
Damien, Damien, merci pour cette vieille chanson qui date de 1939, qui s'appelle « Tout fout le camp ». Ouais, on est content d'entendre ça. Enfin, on est content. Ouais, on est content. Et moi, je pensais aussi à là, Lepage, Franck Lepage, qui dit que en fait, on va voir qui est capable de conduire ses hélicoptères et tout ça. Et ça fait penser aussi à cette question de quels parents vont être capables d'envoyer leurs enfants le 11 mai à l'école. Et j'entendais tout à l'heure des parents dire qu'en fait non, il n'y avait pas moyen d'amener les enfants, les petits porteurs sains à l'école pour pouvoir retourner travailler. Et visiblement il y a un petit mouvement qui se met en place là depuis hier soir, je ne sais pas quelle heure, sur les réseaux probablement auxquels nous ne sommes pas branchés.
Ok, du coup, c'est des parents qui ne veulent pas faire revenir leurs gosses à l'école parce qu'ils ils lui font plus confiance, ou ils se sont dit qu'ils étaient bien avec leurs enfants et...
Bah là, en l'occurrence, c'est plus la volonté de ne pas répondre aussi sagement à cette injonction complètement absurde. Enfin là, en l'occurrence, c'était de dire vraiment ça, quoi. Et, en fait, d'amener les gamins à l'école qui sont eux-mêmes dans une probable difficulté de respecter les gestes barrières. Uh-huh. Et qui sont encore une fois ces petits porteurs sains qui vont ensuite aller se balader partout dans tous les petits foyers et retrouver leurs parents qui auront pu aller travailler.
Et, ouais,
et enfin bon, voilà, c'est encore une manière de pointer l'absurdité de
la disparition du virus le 10 mai à minuit. Ouais. À minuit une.
Bah, de toute façon, que le virus disparaisse ou pas, ça va redémarrer, non ? C'est un peu ça le projet, quoi. C'est pas ça qui se passe en Italie, un peu ? Avec le stade 2 ou la phase 2, ou je sais plus comment
ils s'appellent. Voilà, que...
Où il redémarre tout plein d'usines qui avaient été arrêtées à un moment pour, parce que ça, c'est plus tenable. Hein. Et puis les gens continuent à crever par milliers.
Uh-huh. Mais j'avais du coup l'usine, enfin l'entreprise Huawei, H-U-A-W-E-A-E-I, Moi, j'avais vu passer vite fait l'info qu'elle était revenue en Italie, cette entreprise aussi. Donc, je suis pas sûr de vouloir colporter le truc de l'espionnage de masse venu de la Chine jusqu'en Europe. Mais par contre, le fait qu'il y a une réindustrialisation pour refaire travailler tout le monde dans les pays européens, peut-être que ça, c'est plus probable, quoi.
Non, on les attend, les travaux d'intérêt général,
Ouais,
pour
voilà.
tous les bénéficiaires de minima sociaux
C'est ça.
et des demandeuses d'asile. Bon, c'est déjà le cas.
Ouais. Ouais, c'est bon, bah encore une fois, on n'arrête pas le progrès.
Youpi!
On a une petite chronique botanique.
Ah
On
oui, c'est
fait
vrai.
ça? On écoute ça?
Allez.
Allez.
Bon, 39,9, c'est juste une question de température.
Bonjour à toutes et à tous, ici Hibou pour la chronique botanique. En cette période de confinement relativement compliquée où nos libertés sont bien écrasées, je vous propose de se réapproprier certains savoirs ancestraux qui nous permettent de choisir ce qu'on veut manger, de quoi nous voulons nous nourrir. Ici, nous allons parler de ces petites plantes insignifiantes qu'on appelle bien souvent mauvaises herbes qui peuplent nos jardins, qui sont tout autour de nous et dont on passe la majeure partie de notre temps à essayer de s'en débarrasser. Il est très intéressant de les redécouvrir car ces plantes dites sauvages n'ont pas suivi le processus de domestication des plantes de nos jardins et là où on a essayé d'avoir des gros légumes, on a perdu énormément de valeurs nutritives. Il ne faut pas oublier que l'homme, depuis les débuts, s'est essentiellement nourri de cueillettes, donc notre organisme est vraiment prévu pour ça. Et en plus, bah, ces plantes, elles sont gratuites et sont là en abondance, donc on aurait vraiment tort de s'en priver. L'une d'entre elles qui a pointé le bout de son nez tout récemment, c'est le lierre terrestre. À ne pas confondre avec le lierre grimpant. Lierre grimpant, tout le monde le connaît, c'est cette plante-là qui grimpe le long des murets, en haut des arbres, qui court même sur le sol, qui fait ses feuilles plutôt vert foncé, épaisse et lisse au toucher, avec cette tige en forme qui en fait plutôt une liane, et ses petits crochets qui lui permettent de s'agripper partout. Non, ici on parle du lierre terrestre. Lierre terrestre fait partie de la même famille de plantes que la menthe, le basilic, la sauge, une grande famille de plantes aromatiques. Pour la reconnaître, c'est assez simple. Sa tige est carrée, on peut le sentir au toucher. Elle est plutôt cachée et discrète dans les herbes, les petites friches du bord de jardin. Sa tige court le long du sol où elle prend racine à différents endroits avant de sortir sa sommité fleurie. C'est une tige qui est dressée là où on va trouver les fleurs, qui va faire de 15 à 50 cm parfois pour les plus grandes. Et c'est cette partie-là que nous qui nous intéresse, la sommité fleurie. Si on voit ces petites feuilles, elles sont légèrement dentelées, plutôt rondes, opposées l'une de l'autre par rapport à la tige centrale de la plante. Ces petites fleurs sont violettes, on va les trouver à la base des tiges des feuilles, et si on la froisse entre nos doigts, on peut sentir cette odeur plutôt puissante, très aromatique, que certains même savent pas trop s'ils doivent la définir comme agréable ou fétide. Je vous laisserai voir par vous-même. Nous allons quand même pouvoir l'utiliser, cette plante, car son goût très aromatique lui permet d'accompagner les salades printanières. Hachée finement, saupoudrée sur une salade verte ou une salade composée, peu importe. Ou alors, je vous conseille même d'essayer de la manger sur un fromage frais de chèvre ou de brebis. C'est très agréable. C'est aussi une plante aromatique qui a été utilisée pendant très longtemps pour les toux grasses, les bronches qui sont encombrées. Elle est dite tonique et expectorante. On peut en faire un sirop qu'on prépare nous-mêmes. En général, vous allez trouver plein de recettes de sirop, mais nous sommes sur 1 litre d'eau pour 1 kilo de sucre. On fait une grosse infusion de la plante dans le litre d'eau. On va pouvoir infuser pendant 15-20 minutes sans la faire bouillir, en faisant frémir l'eau. On coupe, on laisse encore un peu infuser dedans, on filtre, on garde que l'eau, et on fait cuire au feu doux avec ce sucre. Et voilà, nous avons un sirop qui peut être utilisé autant pour se désaltérer que en médicament, comme on l'a dit précédemment. Cette plante est plutôt intéressante pour notre petite cure de sortie d'hiver. Vous savez, une période un peu difficile, hein, on a du mal à s'en remettre, le printemps arrive. Elle est très tonique, très stimulante pour ça et reminéralisante. C'est pour ça que je vous en parle et que je vous invite vraiment à la découvrir et à l'utiliser. Et je vous laisse prendre en main cette découverte. Pour ceux qui ne sont pas sûrs, vous pouvez vous aider d'une flore botanique. Vous savez, ces livres qui permettent de reconnaître les plantes. Surtout, il ne faut pas la confondre avec le lierre grimpant. Elles n'ont rien à voir ensemble à part le nom. Le lierre terrestre, il n'a pas beaucoup de plantes qui lui ressemblent. Où pourrait y avoir un danger de la confondre. Hein. On va être sur des plantes qui vont être de la même famille. Mais il est plutôt caractéristique et son odeur fait d'elle une plante vraiment unique. Eh bien, je vous dis à bientôt pour d'autres secrets de plantes. Prenez soin de vous. Kiss your face, turn your cheek, lay your head down, lay your head down, lay your head down, lay your head down. Now you want to go.